Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, le podcast est une présentation de Manscaped, et oui, Manscaped sont en campagne de sensibilisation en ce moment, la campagne qui s'appelle We Save Balls, ouais, parce que si vous savez pas c'est quoi Manscaped, c'est une compagnie qui est pour l'entretien des couilles, oui, l'entretien pour raser les couilles, fait que si vous voulez raser vos couilles comme un vrai professionnel, hein, Manscaped, c'est le barbier des couilles, ok, man? Puis, il offre un code promo, utilise le code promo JER20 pour avoir 20%, j'imagine, c'est 20%. Puis bref, ils m'ont envoyé un beau colis ici avec un beau chandail. Moi, man, quand on parle de CV des couilles, j'aime ça. Your balls will thank you. Hein? Ça le dit dans le slogan. Fait qu'ils m'ont envoyé ce colis-là que j'ai déjà ouvert, okay, en passant. Okay? Fait qu'il arrive pas de même. Mais c'est ça, ils montrent un peu les produits qu'il y a là-dedans. Tiens, il y a toutes sortes de produits, hein, que tu peux mettre, hein, pour que justement tes couilles sentent bonnes. Puis il y a plein de produits là-dedans. Fait que t'as le fameux rasoir, hein, check ça, est-ce que c'est un beau rasoir là, hein. Ça part avec une petite lumière, ça va 100% waterproof. Hein, t'entends-tu le bruit? Hey, il y a quasiment pas de bruit là-dedans, esti. Fait que c'est ça coche. J'ai utilisé ça. Pis mes couilles les remercient, hein! Fait que Manscaped, esti, c'est vraiment... En plus, c'est ça, sont en association avec la Fondation du cancer... ouais, c'est ça, le cancer des testicules. Fait qu'ils sont en campagne de sensibilisation en ce moment. Pis aussi, ce beau petit produit-là que moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai bien des poils dans la narine, esti. Fait que il y a ce petit bidule-là qui enlève toutes les petits poils, esti, dans les narines. Fait que là, t'as pas de l'air de Geppetto, esti. Il y a comme genre, esti, 20 km de poils dans le nez, là. Fait que, avec un chargeur, c'est vraiment sacoche pour vrai, man. Manscaped, c'est la compagnie à aller chercher pour faire sûr d'avoir des belles couilles propres, hein. T'as même des petites blades pour aider tout ça. Puis c'est quoi ça, ces produits? Attends, j'ai quand même pas pris le temps de les lire, là. C'est du tonique pour les testicules, hein? Fait que si tu trouves c'est quoi du tonique, ben c'est pour les testicules, je dis. Puis quoi d'autre qu'il y a là-dedans? Christ, que c'est drôle. Moi, man, j'ai accepté quasiment juste parce que c'est drôle de faire des pubs de... Pour des désodorisants pour les testicules! Fait que hein, si tu veux que tes couilles sentent prop! Serait nice qu'ils donnent aussi, tu sais quand ils lavent ton char là, d'habitude, là, la compagnie va mettre un petit sapin là. Serait drôle d'avoir un petit sapin, tu te mets sa queue. T'as un beau sapin pour ta date. Quand elle baisse tes pantalons. Ah ben, c'est pas dans l'autre, un petit sapin, esti. Bref, un gros merci à Manscaped, encore une fois, pour tout le mois d'avril, eux autres sont en campagne de sensibilisation pour le cancer des testicules, ben, ou contre le cancer des testicules, là. Et utilisez le code JER20, fait que J-E-R-R-20, puis pour avoir 20% de rabais, j'imagine, esti, man, ils m'ont envoyé ça en anglais, puis moi, je comprends pas vraiment l'anglais. Fait que... Pis man, j'adore le chandail, man. Il est cool, red. Pis ils m'ont donné des boxers aussi. Je sais pas si ça vient avec. Encore une fois, j'ai rien compris. Fait que bref, gros merci à Manscaped de commanditer le podcast de cette semaine. C'est crissement apprécié. Notre invité de cette semaine, c'est nul autre que Félix Séguin. Et oui, il est revenu une deuxième fois. Fait que dans le podcast, il nous a justement parlé de... comment qu'il a aimé venir la première fois, sa participation la première fois au What's Up Podcast. Ça a vraiment été pour une deuxième fois vraiment très cool de le recevoir. J'ai pu y poser des questions que j'ai pas pu y poser la première fois parce qu'encore une fois, c'est le même problème qu'il y avait la première fois, c'est qu'il est énormément chargé, son horaire est très chargé, fait que il a juste pu nous donner environ 45 minutes pour cette fois-là, puis il est vraiment gentil parce que il m'a même demandé si il pouvait annuler notre la veille, annuler notre podcast parce que justement il avait pas assez de temps. Puis j'ai dit ben tu sais mon gars, c'est comme tu le sens, mais c'est sûr que mon monde serait vraiment content de que tu reviennes une deuxième fois, fait que il a vraiment tout fait pour être capable de venir. Il a réussi à le faire, mais juste pu nous donner 43 minutes. Fait que, bref, quand même un gros merci à Félix Séguin. Fait qu'on a parlé du documentaire qu'il a fait, qui est Narcos PQ. Je vous encourage à aller l'écouter. Je sais pas trop où c'est qui est, mais cherchez un peu sur Google, vous allez le trouver. Puis ça, ça parle justement des cartels mexicains, hein, la présence qu'ils ont au Québec. Puis, il répond à mes questions sur ça. Puis, encore une fois, ça a été vraiment un podcast vraiment intéressant, man, que je trippe Félix Séguin. Il est vraiment bon. Il connaît son sujet. Il est ça, King Coche. Fait que, gros merci à Félix Séguin. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, bien important d'aller vous abonner. Devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. Il y a plein de forfaits, 2, 3 pièces, d'autres à 10, d'autres à 25. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait qu'un gros merci à tous ceux qui sont abonnés. C'est crissement apprécié. Ou sinon, si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Tout support est apprécié. Vous pouvez juste... Abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous, désolé, je viens de manger. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche. Laissez un petit thumbs up, ça va être super apprécié. Laissez un petit commentaire positif aussi, ça va être bien apprécié. Puis super bon, ça va aider pour les algorithmes. Ou sinon, abonnez-vous à mon compte Instagram, Jeralyn, à ma page Facebook, Jeralyn. Encore une fois, ça va être super apprécié. Fait que gros merci à Manscaped de commanditer le podcast. Gros merci à Félix Séguin d'être revenu sur le WhatsApp. Merci à tous mes membres Patreon, tout le monde qui écoute. Et sinon, un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Et j'ai nommé encore une fois Alex Lavoie, Boutique Bouchou, Quaticook, Éloi Blanchard, Gab au Jolipier, Jérôme Arbour, Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Fait gros merci tout le monde, c'est crissement apprécié. Je vous souhaite un excellent podcast. On se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour la deuxième fois Félix Séguin. Un gros merci mon gars.
Ça fait plaisir. Je suis content d'être ça.
Pour vrai, tu me fais un énorme beau cadeau d'anniversaire.
Parce c'est ta fête?
Ben, c'est ma fête dimanche. Fait okay. Que hey, je suis tellement content, là, tu sais pas à quel point.
Tant mieux.
Comme tu me bonne disais, t'as bien aimé la première fois que t'es venu, tu t'en oui. as fait quand même beaucoup parler, tu me disais.
Oui, je me suis fait, ça, je trouvais ça intéressant parce que je me suis fait parler de ça ben, par des gens qui te suivent, qui sont dans le milieu de l'humour un peu.
Ouais.
Mais aussi par une génération qu'on rejoint moins dans les médias traditionnels. Fait que, tu sais, des gens qui sont entre 20-30, là.
Ouais.
Y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont vu. Puis, tu sais, c'est quelque chose, des fois, qu'ils consultent un peu plus. Puis, leur manière de s'informer est différente.
Ouais, c'est ça. Ben, ils ont pas le cadre.
Ils ont pas le cadre. c'est ça.
Je fais partie de ça. Là je fréquente une fille. Puis, elle a le cadre. Fait que, wow. J'arrête pas d'écouter J.E. en rafale. Je suis tout en train de me reprendre pour toutes les émissions. J'ai manqué.
Non, mais c'est ça qui est. C'est bien avec ces tribunes-là. Moi, tu sais, la chose que je trouve, puis là, tu m'ouvres une porte de grosse de même, c'est que pour nous autres, les médias traditionnels, quand nos contenus sont diffusés sur YouTube, on perd un peu, tu sais, on perd la paternité de ce contenu-là, parce que ce qu'on préfère, c'est s'ils viennent les consulter sur nos sites.
Ouais, c'est ça.
Fait de l'achalandage chez nous. Mm-hmm. Ça, c'est normal parce que les médias, maintenant, on cherche des revenus. Là, ça coûte cher à faire des nouvelles, ouais. Ça coûte cher à faire des docus, tout ça. Tu sais, mais en même temps, je me dis que ça amène peut-être du monde à venir s'informer aussi mm-hmm. À des sources d'informations qui sont crédibles puis vérifiées. Parce que moi, quand tu m'invites, tu me permets de faire un peu de promotion au fond de, du genre de journalisme oui. que je fais puis ben pourquoi
c'est ça,
je le fais.
C'est ça, c'est ça ta vraie paye. Là,
oui, c'est
parce
ça.
Parce que je te paye pas pour non, venir
je
ici.
Pas pour venir,
je paye ah, juste, en encore, juste en visibilité. Non, oui. Ah, je pourrais jamais accoter les budgets qu'ils te donnent à la TVA. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, je me demande justement comment tu vois ça, tu sais, le monde qui a un œil. Tu sais, qu'il y a une certaine grogne, genre d'une certaine population, tu sais, qu'il y a contre le journaliste. Oui. Je me demande de comment tu gères ça, puis comment toi tu perçois ça.
Bon, ben, je vais te le dire, ça va me faire plaisir de te le dire d'ailleurs, parce que j'accorde beaucoup d'importance à cette minorité-là qu'on entend beaucoup chialer contre les journalistes. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que depuis la pandémie, il y a une minorité de personnes qui a été, moi je trouve, instrumentalisée là par des faux médias, tu sais, puis par des discours, puis des canaux YouTube, Facebook, Twitter, VK pour ceux qui sont là-dessus, là, possédés par des Russes d'ailleurs. Et il y a une forme de, il y a des gens qui se cherchaient une cause, notamment, tu vois, les anciens, tu sais, de l'extrême droite, de la meute, tout ça, qui se sont recyclés dans des idées où il fallait combattre les mesures sanitaires dictées par le gouvernement, qui nous ont identifié, les journalistes en général, des médias qui sont bien établis, dits mainstream par eux, comme des organes de propagande du pouvoir. Exemple, tu sais, le raccourci, je trouve, que ces gens-là prennent, c'est qu'ils se disent, pour certains, ben, la conférence de presse de François Legault, du docteur Boileau, puis du ministre Dubé qui nous parle de ce qui s'en vient dans la pandémie puis comment on va la gérer, c'est toute de la bullshit. Donc, puis vous autres, parce que vous la diffusez, vous faites partie de ce grand théâtre-là où vous dites des affaires qui sont pas vraies. Alors, tu sais, ça, je trouve que le raccourci, d'abord, il est énorme. Fait qu'on se fait un peu peinturer dans le coin, puis le journaliste qui est sur le terrain, comme exemple comme moi, comme d'autres de mes collègues, moi, j'étais à Ottawa pour couvrir l'intervention policière qui a fait s'arrêter le blocus.
Ouais, avec les manifestations.
Je me suis fait maganer quand même pas mal. Tu sais, il y a rien qu'on m'a pas dit, il y a rien qu'on m'a pas fait.
Ouais.
Puis ça, je trouve que c'est une minorité dont la parole a été un peu libérée, mais dont la parole est un peu affolante, tu sais. Mm-hmm. Quand quelqu'un te dit... Moi, je pourrais te montrer quelque chose ici, là. Quelqu'un qui m'écrit sur Messenger qui dit « Toi, je vais te tuer. »
Ah, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens.
Écoute, j'ai pas besoin de te dire que j'en ai rencontré des plus malcommodes dans ma vie, là.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, t'es rendu où quand tu vas jusqu'à formuler par écrit une menace de mort. Il y a même un moment où j'ai répondu à cette personne-là, puis j'ai regardé son profil. Ben, le gars était machiniste dans une usine à Mascouche. Tu sais, machiniste, là, aujourd'hui, là, tu gagnes très bien ta vie, là. Tu peux gagner plus que 100 000 $ par année, puis je voyais son profil Facebook, c'était pas un...
Ouais, c'était pas un capoté, là.
Ben, c'était un capoté, mais c'était un capoté avec sa photo, son vrai nom, c'est sa femme, ses enfants, tout ça, puis je dis, écoute... Tu viens de me faire des menaces de mort, tu sais. Moi, ce que je peux faire, je peux appeler la police. Puis, si la police va te voir avec ça, il y a de fortes chances que tu sois accusé de ça. Puis, sais-tu quoi, comme tu viens de les écrire, il y a de fortes chances que tu sois condamné pour les avoir proférés. Fait que tes vacances à Old Orchard l'an prochain. T'oublies ça, t'as un dossier, tu peux plus traverser, tu peux rien faire. Mm-hmm. Puis le gars, il dit, c'est pas grave, je vais te tuer pareil. Fait que tu comprends-tu le comment, à un moment donné, tu te déconnectes de la réalité quand tu fais ça.
Gars, il est là.
Mais au moins, ça me donne l'occasion de rigoler un peu à Ottawa. On était en onde, on ouvrait le bulletin avec Pierre Bruno.
Ouais.
Tu pourras retrouver l'extrait si tu veux. Je sais pas si t'en passes des extraits dans ton podcast. Puis là, le gars, il dit, on était en onde. Puis moi, je me préparais, mais j'entendais rien. Tout le monde criait. Puis là, il me dit, comment tu fais pour dormir le soir? Mais je dis, je me couche de bonne heure, monsieur.
Ah ouais.
Ça a été une remarque qui a été relevée par mes collègues.
Mais tu trouves-tu, par exemple, qu'aujourd'hui, même dans le journalisme, il y a un peu de... c'est plus celui qui a la nouvelle. Tu sais, c'est un peu clickbait des fois. Hein, c'est plus celui qui donne la nouvelle la plus juste, mais le premier qui la sort.
Ben, il y a deux choses. Il y a effectivement, puis, tu sais, il y a des nouvelles qui sont faites ou dont le titre est écrit pour générer.
C'est des clics, là.
Tu sais, du clic. C'est un peu vrai. tu sais, une fois que ça s'est dit, une fois qu'elle a généré du clic, est-ce que le contenu est véridique? Mm-hmm. Moi, tu sais, je parle pour mon journal, puis je parle de ma télé, la réponse, ouais, c'est oui. Puis en même temps, en journalisme, t'as différentes niches, tu sais, en journaliste. Là, moi, ce que je fais en journaliste d'enquête, ça prend des années, des fois, arriver avec un scoop. Fait que, tu sais, dans mon cas, de réduire ça à faire du clic, tu sais, je trouve que ça s'applique pas. Est-ce que, tu sais, je te mentirais si je te disais que ça s'applique pas dans d'autres niches du journalisme aussi? Tu as un peu raison, tu sais, quand même.
Okay. C'est ça. Moi, je voulais te parce que là, on a vraiment pas beaucoup de temps.
T'as le chrono.
le chrono est embarqué. C'est ça. Puis je voulais absolument te parler du documentaire Narcos PQ.
Oui.
Parce que j'ai adoré ce... Moi, c'est le genre d'affaires-là, de drogue, de cartel, puis de... Oui. Chris, ça vient me chercher.
Oui.
Puis je voulais savoir comment que l'idée est venue, tu sais, fait que comment que l'envie de... Parce que t'as même été esti à Acapulco, esti, oui, pour aller checker ce qui se passait là-bas, fait comment que l'idée est venue de faire le documentaire?
En fait, c'est que à un moment donné, je mets pas ça trop précis dans le temps pour pas identifier la période où j'ai reçu des documents, mais mettons au cours des 10 dernières années, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec une enveloppe, puis il dit, puis c'était vraiment une enveloppe, là, comme une enveloppe, puis il y a des documents dedans, puis il dit « check ça ». Puis dans cette enveloppe-là, il y avait le nom puis la méthode de fonctionner, le modus operandi, de plusieurs des gros joueurs de l'importation de coke principalement, là, mais du narcotrafic au Québec.
Mm-hmm.
Fait qu'en regardant ça, d'abord, il y a plein de noms que je connaissais pas, puis je réalisais qu'il y a plein de gens qui passaient sous le radar de la couverture médiatique, que les policiers connaissaient, mais que nous autres, on connaissait pas. Pas des figures du crime extrêmement publiques, comme les Rizzuto, les Sollecito, les Scopa de ce monde et d'autres. Les Hells Angels, les Martin Robert, les Mario Brouillette, etc. Donc, des gens qui, somme toute, pour le citoyen lambda, sont un peu au-dessus, tu sais, des soupçons. Ils ont une maison, une famille, un brossard, tout ça. Mais next thing you know, comme on dit, quand tu regardes ce qu'ils font dans la vie, ils ont 4-5 entreprises, certaines dans les fruits et légumes, entre autres, puis tu réalises qu'ils importent des tonnes de coke. Puis le lien avec le Mexique dans tout ça, c'est que quand les cartels, puis ça a été largement documenté, on le sait maintenant, quand les cartels colombiens ont commencé à grandir, notamment, tu sais, le cartel de Medellín pour Pablo Escobar, Cali ensuite, Sinaloa, c'est au Mexique, Cali ensuite, Norte del Valle aussi. À un moment donné, quand El Chapo, notamment, a commencé à grandir dans le cartel de Sinaloa, le Mexique est devenu la place où la cocaïne arrivait avant d'arriver ici, aux États-Unis. Donc, c'est le Mexique qui a la marchandise. T'sais? C'est la Colombie qui produit la marchandise. C'est le Mexique qui la possède, puis c'est le Mexique qui la revend. La guerre des cartels faisait rage, puis fait toujours rage. Puis on a décidé de se rendre à Acapulco, t'sais, qui est comme... Acapulco, c'est une mystique. C'est popularisé dans les films d'Elvis Presley, les plongeurs en bas de la falaise et tout ça.
Ouais.
Ville hyper touristique. Puis quand tu grattes le vernis touristique, tu te rends compte que le monde se fait tuer à chaque jour. Puis on voulait avoir une idée de c'était quoi vraiment vivre dans cette guerre des cartels-là. Puis c'est avec un photographe qui a été primé notamment dans diverses expositions qui s'appelle Bernardino Hernandez. Que l'on a passé plusieurs jours à Acapulco à documenter ce que les cartels se font entre eux, puis c'est d'une violence, là, tu sais, ça n'a aucune espèce de sens.
Ouais. Puis moi, je me demandais, première question, qu'est-ce qui a gagné la personne qui t'a donné ces documents-là? Tu sais, pourquoi qu'il fait?
Ben, il y a deux types, Jérémy, de sources journalistiques, plusieurs types, mais il y a deux principaux types de sources journalistiques. Il y a la source qui a un but oblique. C'est-à-dire que, exemple, toi, je sais pas, moi, t'es engagé par telle entreprise, puis, tu sais, il y a quelqu'un dans ton entreprise, tu sais, qui flagosse un peu, puis tu l'aimes pas, puis tu décides de venir me voir en disant, regarde, lui, il est en train de faire des affaires illégales.
Ah ouais.
Toi, tu règles un problème en faisant ça, parce que si ça, c'est médiatisé...
Ouais, la compétition.
Ta compétition dans l'entreprise risque de disparaître, parce qu'elle va se faire congédier, cette personne-là. Mais ça, c'est ce qui va ça, c'est ce qui arrive pour toi. Toi, donc, t'as ce but-là en disant, lui, je l'ai là, puis je vais, tu sais...
Le tabarnak.
Ouais, c'est ça. Mais moi, quand je reçois tes informations, ce que je dois traiter, c'est est-ce que ce que tu me dis, c'est d'intérêt public, d'abord? Mm-hmm. Est-ce c'est vrai, ensuite? Ouais. Fait que toi, ton but que tu rencontres, moi, il m'est pas très important tant que l'information est vraie puis d'intérêt public, puis ça vaut un reportage journalistique. Il y a ce type de source-là qui vient te voir. Puis il y a d'autres sources qui sont mues seulement par cette idée très idéaliste-là de faire le bien aussi. C'est-à-dire, regarde, ça, faut que ça sorte, faut les exposer, ça arrive aussi. Puis ils n'ont aucun intérêt, là, outre que le bien commun puis le bien public, à exposer des gens qui trempent dans des combines. T'sais.
OK.
C'est un peu ça.
OK. Puis, dans le documentaire, justement, on voit que il y a comme une branche des cartels mexicains au Québec.
Oui.
Parce que moi, c'est fou. Moi, on dirait que c'est juste dans les films. Hein.
Non.
T'sais, c'est juste dans les films. Puis, tu sais, le Mexique, c'est tellement loin. C'est que au Mexique ou aux States, ça se passe.
Ouais.
Mais le Québec, on est correct. Mais non, justement, il y a comme représentants ou il y a une branche québécoise.
Oui, puis ça, c'est des gens qui sont très peu connus. Puis oui, le cartel de Sinaloa, puis d'autres cartels, Jalisco, puis etc., ont des représentants au Québec parce que c'est eux autres qui ont la marchandise. Alors, tu sais, c'est... Puis je me rappelle, on avait établi là, le nombre, puis je ne l'ai pas de mémoire, mais le nombre de membres des cartels mexicains qui étaient au Québec, 200. Au Canada, 200, merci.
Ouais.
Puis c'est un chiffre qui avait été remis en question par Justin Trudeau puis par son ministre de la Sécurité publique. Mais j'ai une petite nouvelle pour M. Trudeau. Ce chiffre-là nous venait de sa propre agence des services frontaliers.
Mm-hmm. C'était 400 au Canada.
C'est ça, puis 200 au Québec, de sources qu'on connaît là, puis on a vu des photos, puis on a vu des passeports, puis on le sait. Puis on est capable de réfuter cette négation-là, tu sais, de Justin Trudeau. Et puis c'est ça, tu sais, même l'ambassadeur mexicain nous avait accordé une entrevue après en disant, ben non, il n'y en a pas. Tu peux pas penser comme ça, tu peux pas penser comme ça parce que d'abord, ça se peut pas. Si tu as la marchandise, ça te prend quelqu'un pour la vendre, ça te prend un émissaire. Puis je te rappellerai que dans Narcos PQ, on avait établi, je sais pas si tu as vu la portion d'entrevue avec Jean-Pascal avec son côte de poêle.
Ouais.
Là. Bon, on avait établi que, entre autres, Jean-Pascal était fou amoureux d'une fille qui s'appelait. Ah, qu'on n'a pas nommé en fait.
Ouais, non, c'est ça.
C'est ça.
T'as bloqué le nom à chaque fois.
Oui, c'est ça. Il s'appelait Bip, Bip, Bip. Qui, elle, était mariée avec le numéro 2 du cartel de Sinaloa.
Mm-hmm.
Puis ces personnes-là ont été vues souvent à Montréal ensemble, en train de rencontrer un et l'autre pour conclure des affaires.
Ah ouais. Mais justement, puis dans le tu disais que, genre, ces 200 personnes-là étaient des... Il y en avait bien là-dedans, c'était des tueurs à gages qui venaient... au Québec?
Parce que le fait de tuer, le meurtre, n'a pas la même valeur nécessairement pour les cartels mexicains que pour les pègres et les mafias qui sont au Québec présentement. Parce que, tu sais, il faut comprendre d'où ça vient, ça. Parce que le Mexique, c'est considéré... notamment par Transparency International et etc., comme un narco-state, donc un narco-État. Ce que ça veut dire, c'est que...
Ils ont comme pris le contrôle.
Ils ont pris le contrôle. Il y a tellement d'infiltration du crime organisé dans les sphères politiques, économiques, décisionnelles, étatiques, que ça devient un État qui est contrôlé par le crime, un peu, si tu veux. Maintenant que ça c'est dit... quand tu grandis dans un état comme ça, des fois, la seule chance que t'as de faire un peu d'argent, pour certains, c'est de te faire happer par un cartel, puis en tout cas, devenir soit un membre ou un soldat ou un exécutant.
Mmh.
Et tu peux décider de tuer, puis ça s'est vu à plusieurs reprises, pour zéro, là, ou pour 500$, ou pour moins que ça.
Ah ouais.
Parce que...
Juste pour te faire un nom.
Oui, puis c'est un... c'est plate à dire, tu sais, mais la vie, ça a une valeur, tu sais, pour les cartels, tu sais. La vie de, tu sais, la vie de telle personne, si elle est, tu sais, dans très haute, dans les hautes sphères, tout ça, elle vaut plus, évidemment, que l'autre, que l'autre. Fait que si tu transposes ça à notre réalité, t'as des gens qui ici, transposent ça à la leur, tu sais, en disant, moi, je peux tuer pour moins, là. J'ai pas besoin de 50 000 piastres pour le tuer, là. Je le ferais pour 500 piastres chez nous, là.
Ouais.
Fait que oui, il y a des tueurs à gages. Des, soit engagés par des cartels ou soit venant directement des cartels. J'en connais un d'ailleurs, tu sais, qui a tu sais, puis qui s'est jamais fait prendre, mais qui a tué. Tu sais.
Ah ouais. Puis c'est quoi, il reste ici, lui, puis.
Oui, ben. Faut-tu que je réponde à ça, moi?
Bon, ben.
Prochaine question!
Ouais, c'est correct! je me demandais aussi quelle influence que, qu'ils ont ici. T'sais, est-ce qu'ils opèrent à partir d'ici ou c'est vraiment juste comme des représentants, ce monde-là, pour faire affaire avec les cartels?
Ben, c'est bien décentralisé, les cartels, contrairement à certains pouvoirs mafieux là, qui sont très, très concentrés dans des territoires géographiques. Exemple, le cartel de Sinaloa, quand il a pris son expansion, t'sais, ça a été... bon, mais c'est Sinaloa, après Los Angeles, après ça, Chicago, qui est devenu le plus gros hub pour le cartel de Sinaloa. Ben là, Chicago, là, tu te rapproches, là, tu commences à te rapprocher de la frontière, là, tu sais, t'es à un lac, t'es à un lac du Canada, là.
Ouais, c'est ça.
Donc, tu sais, c'est beaucoup plus, je te dirais, je pourrais décrire comme des émissaires, tu sais, des cartels, vraiment des représentants. Qui ont pas de territoire puis d'influence sur les territoires géographiques ici parce qu'ils ont pas besoin. Parce que c'est des gens de, c'est des vendeurs.
Ouais, c'est ça.
C'est des vendeurs. Fait que c'est des brokers. C'est des gens qui, puis.
Il n'est pas nécessairement un concessionnaire encore.
Non, il n'y a pas de concessionnaire Sinaloa Motors.
Ouais, c'est ça.
Mais, pour une autre raison, c'est que dans les importations, les grosses importations de drogue, présentement, il y a le phénomène du chip-in.
C'est quoi ça?
C'est qu'il y a bien des membres du crime organisé. Mettons, tu fais venir 2 tonnes, là. C'est assez rare que tu prends les 2 tonnes tout seul. Si t'es, mettons, je sais pas, moi, si t'es tel membre de la mafia, tel membre des Hells Angels, tel membre des gangs de rue ou tel membre d'un gang indépendant... Maintenant, les crimes organisés travaillent un peu ensemble. Ils se connaissent un peu tous, puis tu peux avoir un partenariat, puis t'en as, qui ont été démontrés avec la mafia des Hells Angels. Fait que, mettons, prendre mafia Hells Angels parce que c'est les plus connus. Toi, tu fais venir 2 tonnes, ben, c'est le chip-in. C'est-à-dire, toi, tu donnes combien sur ce chargement-là? Toi, tu donnes combien? Ça a l'avantage de diminuer ton risque aussi, parce que tu partages le risque. Parce que ça, celui qui vend à l'autre bout, lui aussi, il a un risque. Puis c'est établi dès le départ. Tu t'envoies 1 tonne, si on s'en fait saisir, si je l'en fais saisir, il se passe quoi? Fait que tu partages le risque. Il y a toute une économie parallèle, bien sûr, mais il y a tout un langage parallèle là-dedans. Là.
Ouais. Puis comment qu'ils font venir, justement, la drogue? Ils font ça encore avec style Raymond Boulanger en avion? Non, j'imagine.
Ben, non, et oui. Ben, c'est-à-dire... Pas sur les vols privés, là, en tout cas, moi, à ma connaissance, là, c'est pas ça, les méthodes d'entrée principales. Ça reste toujours... Il y a le fret aérien là, dans les conteneurs. Il y a toujours des gens qui ont... Ça, t'appelles ça une porte, Jérémy. T'appelles ça une porte. Il y a des gens qui ont des portes. Une porte, ce que c'est, là, c'est que si toi, t'as la porte de l'aéroport, là, ça veut dire que toi, tu contrôles la personne qui travaille, disons, pour une compagnie aérienne X, qu'on nommera pas, qui est à coquiner avec le vendeur qui met la drogue sur l'avion à l'autre bout, puis quand il arrive ici, t'es capable de sortir le conteneur, puis d'en retirer la drogue. Fait que ça arrive, c'est du fret aérien. T'as les routes terrestres par les compagnies de transport, c'est évidemment, tu sais, encore là, c'est des prédictions probabilistes. Là. Tu dis, moi, j'ai tant de camions qui font du, je sais pas, moi, du Chicago-Montréal ou du Los Angeles-Montréal. Ma compagnie est infiltrée ou j'ai moi-même décidé que je trempais là-dedans. Ben, je la fais venir par mes camions, puis c'est caché dans certains de mes camions. Okay. Je vais m'en faire prendre, je m'en ferai pas prendre, mais bon, j'en ai qui arrivent. T'as aussi de le fret maritime, le port de Montréal, qui est toujours hyper important depuis déjà 70 ans pour les drogues qui arrivent au Canada. Certaines cargaisons arrivent même au Canada du Sud avant de redescendre aux États-Unis du Nord.
Mm-hmm.
Fait que ça arrive aussi par bateau au port de Montréal. Récemment, là, par voilier privé aussi, c'est arrivé là, au large de la Martinique, je pense, il y a quelques années. Là, il y avait 1,5 tonnes dans un voilier qui s'en allait à Gaspé, puis le voilier était bien connu à Gaspé, là, puis c'était des pilotes de navires québécois qui étaient sur... On a une expertise en navigation, il semble. On a des bons pilotes, oui. Ouais, puis il y a des fois aussi, il y a des sous-marins aussi, il y a des sous-marins maison. Oui, c'est ça, ça arrive aussi, ça.
Ben, pas voyons, souvent. Comment tu fais pour se faire pogner, comment tu fais pour trouver ça ici?
Non, ben justement, il faut que tu le fabriques.
C'est artisanal.
Oui, c'est artisanal, le sous-marin artisanal. Non, c'est vrai.
Chris, c'est drôle, ça.
Le gars qui est dans sa shop, qui se fabrique.
Ouais, c'est ça. Avec le masque de soudure. vous avez montré aussi qu'il y a des représentants, pas juste de vente, mais pour essayer de corrompre des douaniers, puis puis de trouver genre du monde qui veulent faire la part aussi.
Ben oui, tu sais. C'est parce que là, si t'as un crime, tu sais, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu.
Ouais.
Fait que, tu sais, les cartels, les crimes organisés en général, vont chercher du monde qui ont besoin d'argent. Puis quand t'as besoin d'argent, t'es très vulnérable, tu sais. Là, il y a une question de morale qui est en ligne de compte. Si t'as besoin d'argent, ta morale va jusque où?
Mm-hmm.
Une fois ta morale, là...
À quel prix?
Tu sais, on a tout le monde, la fameuse phrase, on a tous un prix. Mais il y en a qui ont un prix, pour vrai.
Ouais.
Puis, quand ils ont des problèmes financiers, ils sont utilisés comme camionneurs. Parce que, il y a une douanière de la colle, du poste frontalier de la colle, qui a été utilisée par des criminels de Montréal pour laisser passer, fermer les yeux sur des cargaisons qui entraient. Elle a été d'ailleurs accusée, reconnue coupable, cette femme-là.
Puis comment qu'elle s'est faite poigner, tu sais-tu?
Si ma mémoire est fidèle, il y a eu des soupçons qui pesaient sur elle en raison d'un agent civil d'infiltration qui faisait partie du gang. Un agent civil d'infiltration. Dans le milieu policier, t'as deux types principalement de source, où t'as trois types, là, t'as l'informateur, t'as la source codée, qui est souvent une source du milieu criminel, qui va te fournir des informations, des fois en échange d'un montant d'argent, puis t'as l'agent civil d'infiltration. Ça, c'est un criminel que l'on va payer, qui va porter les micros, puis lui, il est là pour faire la job d'infiltration pour la police, puis il est contrôlé après chaque jour d'ouvrage par la police.
Okay.
Donc, si ma mémoire est fidèle, dans ce cas-là, c'est
le même, puis il avait donné ce type.
Dans la gang qui disait, regardez, ça passe là, telle douanière, quand t'as fait ça, ça veut dire passe, quand t'as fait ça, ça veut dire reste.
Ah ouais.
Ouais.
Puis aussi, ça a été, dans le documentaire, ça a passé vraiment vite, mais il y a eu des liens qui ont été, dans le fond, vous avez rendu compte que il y avait des liens, la communauté assidique de Bois-Briand.
À Bois-Briand.
Ouais, c'est ça. C'est quoi les liens de tout ça?
Ben, les liens, en fait, c'est assez intéressant parce que la GRC a été capable de confirmer qu'il y a des membres de cette communauté-là, Bois-Briand, qui est une communauté juive ultra-orthodoxe.
Oui, c'est ça, qui vivent carrément dans leur monde.
Oui. Et c'est ça, qui est une communauté fermée dans les deux sens, parce que c'est délimité géographiquement, mais fermée sur elle-même aussi, comme plusieurs communautés juives ultra-orthodoxes, avait servi à financer certaines importations, mais c'était renversé de savoir ça, de drogue. On a passé vite là-dessus pour une raison, c'est que ces informations-là figuraient dans des rapports de renseignement criminels. On n'avait pas la personne, mais précisément, mais on savait que ces personnes étaient aussi dans le blanchiment d'argent par le transport de diamants.
Pas juste la coke.
Non, mais tu sais, tu vois, puis ça a été démontré, je pense qu'il y a eu quelques reportages qui ont été faits là-dessus. Tu vois souvent, parce qu'il y a évidemment un bassin de juifs, il y a un bassin de gens de confession juive à New York énorme, tu le sais comme moi.
Mm-hmm.
Puis il y en a un bassin énorme ici, Et il y a une twist que les gens qui veulent blanchir ont trouvé, c'est le blanchiment par diamant. Quand tu vois des autobus là, qui descendent à New York, entre autres, plutôt qu'amener 100 000 cash, si t'apportes 3 diamants là, dans le fond d'un portefeuille, penses-tu qu'il y a un douanier qui va le trouver?
C'est ça.
Ben non.
Rendu le risque là-bas, est bien moins.
Le vrai. Risque est, pas, il est presque inexistant. Mm-hmm. Rendu là-bas, là, tu redonnes le diamant, le cash est là. T'sais.
Ouais, c'est ça.
C'est fou.
Ah, ça fait du sens.
Ah, oui.
C'est ça, fait que là, vous êtes rendu, vous êtes allé jusqu'à Acapulco,
oui.
Qui est, c'est ça, je pense, au monde, la troisième ville qui a le plus de meurtres? Ou
oui.
C'est...
Au monde.
Au monde.
Oui, oui, c'est ça. Ben, en tout cas, dans les
périodes
où, ouais, c'est ça, ouais. Où on était là, effectivement. Puis c'est ça, moi, ça me fait toujours un peu capoter, en fait. Moi, quand je voyage, là, puis tu sais, je voyage beaucoup à des fins personnelles, ben, à des fins professionnelles. Quand je vais à quelque part, là, j'aime ça savoir où je suis, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, il y a beaucoup de Québécois pour qui Acapulco, c'est un paradis, là.
Ouais, ouais. On le voit dans le documentaire, justement.
À Acapulco, là, mon grand-père de 94 ans passe encore l'hiver là, à chaque hiver. Puis moi, je voulais interviewer ce monde-là sur leur conception de ce qui se passe à l'extérieur de leur...
Ben ouais, leur réalité.
Leur réalité.
De qu'est-ce qui se passe.
Tu sais, les réponses, moi, ça me fascine toujours quand ils disent « Ouais, mais on le voit pas vraiment, tu sais.
Mm-hmm. »
Mais... C'est pas parce que tu vois pas quelque chose que ça existe pas, tu sais.
Mm-hmm.
Moi, je suis pas sûr que j'irais passer mon hiver d'une place de même.
Mm-hmm.
Parce que ça confronte un peu ma morale en disant « Pourquoi moi, je vais aller d'une place puis je vais faire ça comme ça pendant un hiver de temps puis pas regarder ce qui se passe à côté? » Tu vas me dire « Il y a rien de parfait, là, tu sais. Toute chose étant égale, si tu vas passer l'hiver à... En Floride, il y a des problèmes aussi, tu sais, en Floride. Mais je sais pas, je trouve que c'est intéressant d'aborder ça, de voir une gang de Québécois qui vivent là ensemble, puis qui tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passe juste à la porte, là, du camping. Puis
ils ne semblent pas affectés.
C'est évacué, tu sais.
Ouais. Mais en même temps, j'imagine qu'ils contribuent au marché local, tu sais, si la madame, ça disait qu'elle allait au marché pour pouvoir acheter...
Ben oui, puis tu sais, c'est aussi une bonne justification en disant, mais regarde, si l'économie légale puis qui vient du tourisme, qui vient tout ça, coupe tous ces ponts, avec des gens qui ont des problèmes, il reste juste le crime.
Ouais, c'est ça.
Il y a ça aussi, ça te prend. Mais, tu sais, je le répète, là, il y a plusieurs organismes qui disent que le Mexique, c'est un narco-state aussi. Là.
Ouais. Quand t'es allé là-bas, comment t'as perçu ça? Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est vrai qu'une fois que t'étais, mettons, dans la communauté de Québécois qu'il y avait, tu sais, le resort, on va dire, de Québécois, c'est vrai que tu vois pas grand-chose, puis t'es bien correct, au contraire...
Non, c'est vrai.
C'est ça, okay.
C'est vrai, c'est t'entres dans un...
Dans le paradis,
un monde de licorne en passant la gate, puis tu sors du monde de licorne, puis là, c'est... Écoute, le photographe avec qui on était, là...
Ah ouais, lui, était sur le gun en esti.
Aïe. Écoute, tu sais, un gars, là, qui... tu photographies des cartels. Tu penses-tu à quel point lui a dû fuir le Mexique à un moment donné?
Pendant un an,
s'exiler, il y a trop de menaces de mort. Là, on est avec lui. Puis moi, je baragouine l'espagnol. La réalisatrice, la caméraman Ninon, avec qui j'ai fait ça, que j'adore, elle parle très bien. Fait qu'on avait la facilité de se comprendre. Mais ce qu'on pouvait comprendre, on n'a pas besoin de parler avec lui. Tu comprends son stress. Tu sais, à un moment donné, il tombe en mode. C'est opérationnel, je te dirais, puis à un moment donné, on est là, on est à l'extérieur un peu d'Acapulco, puis là, il réalise qu'on se fait suivre. Là, moi, ça file moyen. Parce que, tu sais, je voyais les photos des gens dont la tête avait été coupée puis accrochée à des viaducs, tu sais. Puis je me dis, tu sais, elle vaut quoi ma vie ici? Moi, là, si on se fait arrêter avec lui, si on se fait accoster, la réponse, c'est rien. Là, finalement, on rentre chez eux, pour t'sais, laisser refroidir un peu là, notre affaire. Puis c'est chez eux, c'est comme barricadé. il ouvre le fridge, il doit avoir à peu près 175 bières dans le fridge, une pinte de lait. Tu vois que le gars, il carbure à la présidente puis à la... Tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai comme compris, là. C'est...
Ouais, dans quel univers
dans il quel est. Univers il est, là.
Il carbure à l'adrénaline, puis...
Ben, c'est ça, tu sais, puis il fait des maudites bonnes photos. Mais je ferais pas sa job, là, tu sais.
Ben non. Puis justement, qu'est-ce que t'as vu, là, parce que t'en as montré un peu, là, de...
Oui.
Tu sais, il y avait une scène de crime, justement, où il y avait quelqu'un qui est mort, même il y avait un écolier, une balle perdue.
Moi, sais-tu quoi, c'est drôle que... Je sais pas comment le monde vit avec le fait que moi, j'ai... C'est drôle, je voulais, d'une certaine façon, être confronté à cette réalité-là parce que je voulais en témoigner, tu sais.
Ouais, c'est de quoi de le documenter de l'extérieur?
Puis, tu sais, quand... Puis là, quand je l'ai vu pour la première fois, parce que lui, il écoute les radios, puis il y a ses informateurs, tout ça, puis... là, on est... « Hola, patronne! Vite! On s'en va! Pronto, pronto! » Pronto, c'est en italien. « Mettons pronto!
»« Mettons pronto!
»« Presto! » Puis là, il dit « Vite, vite, vite! Faut s'en aller! Il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer! » Puis là, on réalise qu'effectivement, tu sais, on court partout dans la ville avec lui, dans un vieux char à planche, pas de muffler, puis il roule, il brûle toutes les lumières, il fait pas de stop, il s'abrasse, on se fait bardasser d'un côté, puis l'autre, pour arriver finalement à une scène, dans plein marché public, t'as un gars dans la jeune vingtaine, il est là à terre, c'est fini, il est mort, il s'est fait tirer à côté d'un bus d'écolier. Puis tu te dis, non, mais ça marche, pourquoi, là? Il y a pas de... Tu sais, comment je te dirais... Peut-être que les gens qui vont écouter ton podcast vont percevoir ça comme un attrait pour, tu sais, du jaunisme ou du sensationnalisme. Mais moi, j'avais besoin quand même de confronter ce que je connaissais à la réalité. Puis ça m'a vraiment rentré dedans quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah oui, hein, c'est vraiment ça. Parce que c'est une affaire de le lire. C'est une affaire de le lire. C'est une autre affaire.
De le vivre.
De le vivre, tu sais.
Ouais.
Puis ça, tu penses, puis après ça, on a rencontré des familles de gens qui ont été tués, tu sais, par les cartels. Puis, tu sais, tu réalises que ta vie, comme je disais, on le disait, ta vie, elle vaut rien.
Mm-hmm.
Quand tu décides d'entrer dans ce monde-là, tu sais.
Ouais.
Fait que, tu sais, rendu ici, ceux qui portent au nu, là, tu sais, les gangsters, tu sais.
Ouais, qui les idolâtrent.
Mais, ouais, mais tu sais... Fais le chemin, là. Fais le chemin à partir du gangster que tu vois à télé, là, jusqu'à comment ça se passe dans la rue au Mexique, là. Puis tu vas trouver une bonne réponse sur le respect que tu devrais porter ou non à ces gens-là.
Mm-hmm.
Tu sais, moi, ma job, c'est pas de les respecter ou non, c'est de découvrir. Mais quand j'ai fini de les couvrir, j'étais un père de famille, puis j'étais un gars qui fait ses affaires avec ses enfants, puis son ski, puis c'est... Tu sais, puis j'ai... C'est difficile là de voir que les gens ont mis ces personnes-là des fois sur un piédestal. Je comprends pourquoi, mais moralement, c'est difficile à accepter et à justifier.
Ouais.
Je pense, en tout cas.
Y a-tu des affaires que t'as vues là-bas que t'as pas pu mettre dans le documentaire? Ouais.
Oh oui, ben oui, y a des images. C'est juste que la barbarie, le meurtre s'effectue avec tant de barbarie. Que ça se montre pas, là. Mm-hmm. Il y a des scènes, ça ne se montre pas. Dans avant de notre hôtel, on s'est réveillé à un moment donné, il y avait quelqu'un de pendu un viaduc, là. Ça te donne quoi de montrer ça, là?
Mm-hmm.
Tu sais? Un coup que tu l'as dit, t'es pas obligé de montrer tout ce que tu dis.
Ouais, c'est ça.
Puis des fois, pas le montrer...
C'est pire.
Non, c'est mieux.
Ah, okay,
des fois, de suggérer... ce qui se passe avec la bonne ambiance, parce que là, on est dans la forme documentaire, donc c'est très différent, la forme documentaire que la forme affaires publiques ou journalistiques, parce que dans le documentaire, t'as toujours un biais, c'est comme ça, t'as un biais dans le documentaire, tu veux faire la preuve de quelque chose, puis ça s'accompagne d'une réflexion, alors que dans un reportage de 2 minutes, c'est pas nécessairement ça.
Mm-hmm.
Mais des fois, juste par les ambiances que tu
crées,
témoignes, que tu crées, t'es capable... de passer dans la tête de quelqu'un que c'est tough, là. Pas obligé de voir, ouais, nécessairement.
Puis là, tu disais que, genre, tout le temps que vous avez été là, c'est combien de temps vous avez été là? Deux semaines? Une semaine?
Une semaine, oui.
Ouais. Puis vous avez, il y a eu 8 meurtres, je pense, ouais, tout le temps?
Oui.
Ah, c'est quand même fou, là. Tu sais, 8
meurtres. Un par jour. Quand, ouais. On est resté là 8 jours, peut-être ça, là, 8 jours, peut-être mm-hmm. un peu moins, mais c'était un par jour, là, tu sais. Ah, ouais. Puis on n'était pas dans une période où il y en avait eu beaucoup.
Ah ouais.
Puis il y en a eu un par jour.
Sacrément pareil, hein. Puis en plus, c'est ça, parce que là, je vois que le temps avance. Il y a eu beaucoup de... C'est aussi un côté que vous avez monté, c'est la corruption qu'il y a, justement, au Mexique. Ben oui. Puis autant du côté au niveau fédéral que municipal, à tous les niveaux. Oui. Fait que tu peux pas faire confiance nécessairement à la police.
T'sais. Ben non, parce que la police a des side jobs. Des fois, il y en a qui ont des side jobs de cartel dans les cartels. Mm-hmm. La police d'Acapulco, à un moment donné, ils sont arrivés un matin, puis ils leur ont dit, bon, ben vous êtes tous clairés.
Ah ouais.
Puis on va vous remplacer par toute une gang de nouveaux. Toute la police s'est fait congédier d'un coup,
ouais,
parce qu'elle était trop corrompue. Si mon souvenir est bon, c'est l'armée ou la garde nationale, un des deux, qui est venu remplacer le service de police qui existait, parce que tu peux... Tu sais, la police, là, tu sais, dis-toi une affaire, c'est que la police est aussi bonne puis aussi puissante que la confiance que tu y accordes. Parce que si t'as pas confiance dans la police, puis tu sais, puis t'as la preuve qu'elle est corrompue, quand elle vient pour t'arrêter, la police, qui est chargée de faire respecter des lois qui sont votées,
mm-hmm,
tu dis quoi?
Non.
Mais pourquoi tu viens m'arrêter? Tu fais partie du problème, tu sais. Non, mais c'est ça.
C'est ça.
Tu regardes ici, nos services policiers, là, tu fais pratique, là, ne sont pas corrompus, là.
Mm-hmm.
Puis quand t'as un policier qui arrive en avant de toi, puis qui t'arrête comme du monde, puis qui te lit tes droits, tu te dis, ouais, c'est pas mal sérieux, mon affaire. Mais si t'as un policier du Mexique, ou dans certaines localités, qui vient t'arrêter, puis qui te fait la même chose, puis tu sais qu'il est corrompu, tu dis quoi? Tu dis, hey, je suis en train de me faire avoir dans cette patente.
Tu dis rien, t'y donnes 50 piastres, tu te colles patience.
Mais c'est vrai, Jérémy, qu'ils ont remplacé le service de police. T'sais, imagine-toi.
Mm-hmm.
Imagine-toi si à Montréal, une journée donnée à Montréal, là, peut-être trop gros Montréal, mais mettons, prends, je sais pas, Laval, tiens. Une journée donnée à Laval, t'arrives un matin puis on t'annonce qu'il n'y a plus de service de police, c'est remplacé par l'armée.
Oui, c'est ça.
Parce que le service est dysfonctionnel, c'est ça qui se passe.
Puis le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire là, de ça? T'sais, peux-tu faire quelque chose, le gouvernement là-bas?
Oui, ben oui, il peut faire quelque chose. T'sais, il tente de s'améliorer. T'sais, il tente de débarrasser l'État. Mais pas dans toutes les régions.
Mm-hmm.
Ils tentent de débarrasser le gouvernement de ses pommes pourries, mais tu sais, en étant un narco-État, selon
divers
organismes, ils sont peut-être déjà rendus trop puissants.
T'sais. Ah ouais, ils ont trop d'argent.
C'est
trop...
ça.
OK. Puis le gouvernement du Canada, lui, peux-tu faire quelque chose contre cette...
Ben, le gouvernement du Canada
invasion.
Pourrait faire quelque chose sur le tri des ressortissants mexicains, mais c'est un peu compliqué, ça, parce que avoir des faux papiers mexicains, un faux passeport mexicain, là, ça se fait comme ça. Puis ces gens-là entrent très bien ici, puis il faudrait pas non plus, parce que si on prend toujours ça sur la fermeture de nos propres frontières, en disant « parfait », parce que souvent le réflexe de certains partis politiques aussi, ou de certaines personnes qui sont plus à droite, c'était pas parfait, on ferme les frontières.
Mm-hmm.
Tu règles rien si tu fermes les frontières. Mm-hmm. Parce qu'on va trouver une façon d'entrer pareil.
Avec des sous-marins.
Avec des sous-marins. Non, mais c'est ça, mais avec des faux papiers ou tout ça. Puis, tu sais, les accords de libre-échange qui sont passés dans les économies des États-Unis, mm-hmm, du Canada, du Mexique, avec ce que le Mexique produit,
ouais,
en biens et services qui s'en vient ici, tu peux pas le fermer. Tu sais, c'est très délicat comme problème à aborder,
mm-hmm,
la criminalité organisée qui nous vient du Mexique. Puis évidemment, le Canada peut pas s'ingérer dans les affaires mexicaines non plus, dans les affaires d'État. Tu sais, il y a pas... Je sais pas si... C'est là toujours la question que je me pose. Est-ce que le narcotrafic puis la problématique des drogues qui sont importées du Mexique est assez important pour le Canada pour tu sais, commencer à parler, discuter plus sérieusement avec les Mexicains en disant c'est assez. Tu sais, je me pose la question, mais j'ai une partie de la réponse. Je pense pas que ça soit l'enjeu de sécurité principal entre le Canada et le Mexique. Si tu parles à des policiers, ils vont te dire que ça devrait l'être.
Hey, gros merci, Félix Séguin. Hey, c'est super apprécié.
Ben oui, fist bump. À travers le plexiglas. Non, à travers, c'est ça.
Comme ouais, ça, c'est ça. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger?
Ben, j'ai un nouveau livre avec mon partner Maurice Boucher.
Oui. Ça vaut la peine de le plugger. Il y en a qui l'ont beaucoup acheté, je pense.
Oui. Il se vend super bien. Puis c'est vraiment... c'est vraiment une plongée là, qu'on fait dans ce livre-là, dans un parloir de prison entre Maurice Boucher, l'ancien chef des Hells Angels, des criminels les plus sanguinaires du Québec, puis sa fille, Alexandra Mongeau. Fait que c'est comme si c'était un petit oiseau dans une pièce, puis tu regardes ce qu'il se dit, puis ça te fait voir le personnage différemment. T'sais.
OK. Ouais. Puis, il va-tu avoir une suite à ce documentaire-là de Narcos?
Oui. Ça s'en vient. Je te dis, je reviens.
Je suis tellement content, mon gars.
Je te dis, je reviens, mais là, oh, tu vas essayer de me booker pendant 3 mois, puis je vais dire oui, non.
Ah
oui,
c'est ça. Mais j'ai catché que je te tapais pas ses nerfs. C'est juste des fois, tu réponds, puis des fois, tu ne peux pas répondre.
C'est ça.
Je le prends pas personnel. Non, tout va bien.
Oui.
Gros merci, Félix Séguin. C'est super apprécié. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao tout le monde.
Bye. It's a What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen.
Yeah. Boom, 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 boom.